Le plan local d'urbanisme, PLU, est le document de planification territoriale qui concerne plus de 60 millions de Français, en particulier lorsqu'ils demandent des permis de construire et font des déclarations de travaux. Parmi ces PLU, on parle de plus en plus souvent de PLU patrimonial. Il est un outil bien connu des élus et des acteurs de l'urbanisme et du patrimoine. On en parle depuis le début des années 2000. Avant, on parlait aussi parfois de plan d'occupation des sols fins ou de plan d'occupation des sols qualitatifs.
Au milieu des années 70, un poste notamment, celui de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, épaulant un site inscrit, va jusqu'à déterminer comme en plan de sauvegarde et de mise en valeur. Hein. D'ailleurs, c'était un architecte chargé de plan de sauvegarde et de mise en valeur qui l'avait mis au point, Alexandre Mélissinos en l'occurrence. Va jusqu'à déterminer une hiérarchie d'intérêts architectural entre les immeubles. C'est-à-dire qu'on avait trois catégories d'immeubles dans le POS.
Le PLU patrimonial a même connu son heure de gloire en étant retenu dans le projet de loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, comme l'un des outils envisagés pour la gestion des espaces protégés. Il n'a finalement pas été maintenu dans la loi, faute d'un statut juridique clairement établi et même d'une simple définition. Si les acteurs parlent de PLU patrimonial, ils ne parlent en effet pas tous de la même chose. Cette situation a conduit une dizaine de chercheurs en droit, géographie, architecture, sociologie, à se réunir autour d'un projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche, qui a pour objectif d'ouvrir la boîte noire du PLU patrimonial. Notre idée de départ était de dresser le portrait robot du PLU patrimonial pour en vérifier l'existence déjà, son contenu aussi et même sa recette. Nous envisagions d'établir une sorte de guide de fabrication du PLU patrimonial. Mais au fil des rencontres avec les acteurs de terrain, de la collecte des matériaux scientifiques, des débats auxquels nous avons pris part dans des rencontres professionnelles comme les clubs PLUI, nous avons été confrontés à une diversité de situations très riches qui brouillaient le portrait robot plutôt que de nous aider à le dessiner. Nous avons donc très vite compris qu'il fallait aborder le sujet différemment, en échantillonnant des retours d'expérience et en échangeant avec les acteurs de terrain dans les comités techniques. Deux grandes questions se sont imposées. Si le PLU patrimonial existe, à quel patrimoine est-il destiné? Et à quel niveau de protection? Parmi les 15 000 PLU qui existent en France à minima, l'équipe de recherche a choisi de radiographier en premier les PLU des 20 plus grandes villes de France, malgré le passage en cours au PLUI. Nous avons également échantillonné, en partenariat avec des masters, d'autres communes dont les spécificités justifiaient une analyse plus poussée avec la conduite d'entretien avec les acteurs des territoires notamment. Le premier tiroir de la boîte noire que nous avons ouvert, c'est celui des patrimoines dont un PLU peut se saisir. La première question que l'on peut se poser est celle de l'intérêt d'intégrer des patrimoines dans un PLU, alors que beaucoup d'autres outils existent pour une grande variété de patrimoines. Le patrimoine historique reconnu par l'État dès le début du XXe siècle. Le patrimoine naturel et paysager protégé par l'État, c'est-à-dire les sites. Les périmètres de 500 mètres qui viennent protéger l'écrin du joyau monumental. Les centres historiques en tant qu'ensemble urbain patrimoniaux après la guerre, avec les secteurs sauvegardés voulus par Malraux. Les ZPPAUP, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, transformées en AVAP, aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, qui à la fois accordent un rôle beaucoup plus important aux collectivités et qui ouvrent assez largement le champ des patrimoines. Beaucoup de ces outils valorisent un patrimoine paysager, viticole, industriel, balnéaire, etc. Les sites patrimoniaux remarquables, destinés à remplacer progressivement les secteurs sauvegardés et les ZPPUP AVAP avec la loi LCAP de 2016. Le PLU patrimonial constitue un nouvel épisode dans l'histoire juridique qui rapproche les collectivités locales de leur patrimoine. Sans effacer le rôle de l'État, la collectivité peut identifier seule ses propres enjeux patrimoniaux à l'échelle locale. Pour autant, il faut qu'elle en ait les moyens, tant sur un plan humain, financier que méthodologique. Avant de protéger son patrimoine, il faut le connaître et l'identifier. Sur le principe, tout peut être patrimoine. C'est une notion très englobante qui peut aller du bâti sous toutes ses formes, hôtel particulier, ensemble de façades, mais aussi hameaux, lavoirs, loges de vigne, échelles de crue, jusqu'au patrimoine paysager et naturel, l'arbre remarquable, les haies ou les parcs. Pour cette identification, les grandes villes et les petites communes ne jouent pas à armes égales. Des villes comme Lyon ou Bordeaux ont réalisé leur propre recensement selon des méthodologies qui peuvent être différentes et avec des équipes aux profils variés, architectes du patrimoine, historiens, urbanistes, etc.
Un PLU comme ça qu'on appelle patrimonial, c'est un PLU qu'on dit aussi fin et c'est aussi un PLU adapté qui se base sur une connaissance précise du terrain. Voilà, c'est parce qu'on a fait l'inventaire depuis l'espace public, qu'on a fait les fiches de manière exhaustive, qu'on peut dire ça on le garde, on garde l'existant, et le projet qui viendra remplacer tel autre qu'on ne garde pas, il devra apporter à son environnement plus qu'il ne l'y retire.
Dans tous les cas, des bases de données existent à plusieurs niveaux. La base Mérimée du ministère de la Culture, des données des inventaires régionaux ou départementaux ou plus locaux, à l'échelle des pays ou d'associations patrimoniales locales, ainsi qu'un certain nombre de publications thématiques. De manière logique, plus le territoire concerné est vaste, moins l'inventaire est précis et diversifié. Cette question se pose d'ailleurs dans le cadre du passage au PLUI. Les patrimoines ne sont pas identifiés de la même manière à l'échelle intercommunale qu'à l'échelle communale. Le patrimoine des uns n'est pas forcément le patrimoine des autres, et ce d'autant plus que les critères historiques, artistiques ou architecturaux ne sont pas toujours pertinents pour identifier tous les patrimoines. Certains patrimoines peuvent avoir une valeur sociale plus que scientifique.
Le caractère patrimonial de certains territoires en frange urbaine, qui ont des vraies qualités, qui ont été un peu, à mon avis, trop vite identifiés de France moche, là, tous les secteurs de périurbanisation. Mais en même temps, dans ces secteurs-là, c'est là où on a les anciens villages qui ont été absorbés par la ville et qui sont encore présents. Et du coup, ça, c'est aussi du patrimoine.
Ce sont les habitants eux-mêmes ou les associations de quartier, par exemple, qui vont les désigner comme tels, usines ou cinémas désaffectés, par exemple. D'ailleurs, les habitants ont parfois une connaissance fine du territoire dans lequel ils vivent. Sans l'idéaliser, la procédure de concertation des PLU, puis l'enquête publique, offre des temps d'échange sur l'identification des patrimoines. Temps d'échange car tout ce qui fait potentiellement patrimoine pour les experts comme pour les citoyens ne doit pas nécessairement entrer dans le PLU. La connaissance des patrimoines est une chose, leur protection par un document réglementaire doit se justifier. Le PLU n'est pas un outil dédié à la protection des patrimoines.
Le patrimoine, c'est une dimension du PLU. Moi, je ne parlerai pas de PLU patrimonial, parce qu'en termes de protection du patrimoine, de sauvegarde, de valorisation du patrimoine, il y a d'autres outils. Il y a la VAP, par exemple. Mais le PLU, en tant que tel, aborde tellement de dimensions que le patrimoine, c'en est qu'une. Une dimension de ce... c'est-à-dire de la réalité du territoire sur lequel on intervient.
C'est l'outil du projet urbain, le couteau suisse de la planification territoriale. Cela veut dire que le PLU peut s'intéresser autant au patrimoine qu'aux autres thématiques, comme la mobilité, l'habitat, l'économie. Le patrimoine doit s'intégrer au projet urbain en même temps que le projet urbain peut s'appuyer sur le patrimoine.
Un PLU, c'est un outil de projet. Donc c'est un outil pour traduire un projet. Soit c'est un projet sur le territoire, le patrimoine, et le PLU lui permet tout à fait de traduire ce projet-là. Soit c'est pas un projet, et à ce moment-là, s'il est utilisé pour protéger un patrimoine sans savoir ce qu'on veut en faire, à mon avis, c'est un contresens.
Cela amène donc les élus à régler différemment le curseur de la sélection patrimoniale. Néanmoins, cette sélection doit être assez précisément expliquée dans le document de justification des choix du PLU. Un PLU peut retenir des éléments patrimoniaux dans un quartier en forte mutation, justement pour les protéger, ou au contraire ne pas les retenir pour faciliter la mutation. Dans tous les cas, la collectivité doit exposer la méthodologie qui a conduit à l'un ou l'autre des choix, sans quoi le risque d'une annulation existe.
La patinoire de Saint-Ouen a beaucoup d'ennemis, hein, mais une très grande utilité et parce qu'elle est, elle permet en fait à des équipes de rang régional de pratiquer le patinage artistique ou le hockey sur glace. Donc on a une utilité qui permet de la conserver.
L'espace de patinage est placé en hauteur. Donc voilà, sa situation est là, entièrement métallique, béton. Donc c'est un bâtiment, on va dire, assez rare, assez exceptionnel, qui est en plein centre urbain. Et effectivement, dont la réception est assez partagée à l'échelle de la ville et à l'échelle des bâtiments. C'est un bâtiment qui peut paraître un peu dur de prime abord, mais c'est aussi l'absence...
Dans le même esprit, une collectivité peut être sanctionnée par le juge pour n'avoir retenu quasiment aucun patrimoine, alors que des inventaires attestent de sa richesse. Malgré leur libre administration, les collectivités ont donc bien une responsabilité patrimoniale dans la mesure où il s'agit d'un bien commun. Pour assumer cette responsabilité, le Code de l'urbanisme offre de nombreux outils. C'est le deuxième tiroir de la boîte noire que nous allons ouvrir. Une fois que la collectivité a défini un certain nombre d'éléments patrimoniaux dans le PLU, il est logique de leur accorder une forme de protection. Le PLU est un document réglementaire opposable aux autorisations d'urbanisme, et les patrimoines identifiés devraient en toute logique bénéficier de ce statut. Sinon, à quoi bon les intégrer dans le PLU ?
Bien, ça dépend beaucoup de la volonté municipale de créer un régime juridique dans le PLU. Parce qu'on peut très bien écrire dans le PLU le minimum de ce qui est dans le code de l'urbanisme, c'est-à-dire que on va avoir une liste d'immeubles ou de sites ou d'éléments naturels ou même d'îlots, voire même de quartiers plus importants qui vont se trouver dans la protection municipale, mais on peut très bien se contenter de ça. On n'est pas obligé de créer un régime juridique. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des villes qui ont fait l'effort de créer quelque chose derrière, quelquefois par nécessité. Si vous voulez, quand à Paris, on a fait une liste d'immeubles, on s'est aperçu que c'était bien gentil tout ça, mais que quand il y avait un propriétaire qui voulait vendre son immeuble et qui le vendait à quelqu'un qui avait l'intention d'en faire quelque chose d'autre, cette protection n'empêchait pas, par exemple, ce qu'on appelle le façadisme, c'est-à-dire qu'on garde la façade et que derrière, on fasse quelque chose de complètement neuf, par exemple.
Un inventaire ou un atlas peut rester un simple outil de connaissance, qui pourra servir en particulier à des actions de médiation, comme c'est le cas, par exemple, dans les villes d'art et d'histoire. De même, certains outils financiers permettent d'agir en faveur de certains patrimoines. C'est le cas des politiques de ravalement de façades ou des financements de la Fondation du patrimoine, par exemple. Faire un PLU patrimonial implique un certain niveau de protection juridique des patrimoines. Et comme pour leur identification, le curseur peut être placé différemment selon la variété des choix de la collectivité au sein de la diversité des outils disponibles. Les différentes pièces du PLU offrent des outils juridiques allant du droit souple au droit dur. Sans être exhaustif, nous allons nous pencher sur les principaux. Le plus connu d'entre eux est certainement l'article L151-19 du Code de l'urbanisme, anciennement L123-1-7, qui permet à la fois de renforcer le contrôle sur les autorisations d'urbanisme par rapport au droit commun et de poser des prescriptions sur les éléments identifiés.
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration.
La rédaction de l'article L151-19 laisse à la collectivité la faculté de réglementer ou non. Autrement dit, elle peut le faire mais sans en avoir l'obligation, et selon l'intensité juridique qu'elle désire.
Mais c'est dans le cadre de l'élaboration du PLU qu'on verra où est-ce qu'on va arrêter la jauge, c'est-à-dire ne rien dire, c'est trop fragile juridiquement, enfin, la ville, mais pour nous aussi. En dire trop, c'est pas applicable. Là, on voit bien que... Donc il faut réussir à avoir une modularité dans la manière d'écrire le règlement.
Ces prescriptions peuvent reposer sur un repérage spatial dans les documents graphiques qui peut prendre plusieurs formes. Une étoile pour un bâtiment isolé, un trait pour un linéaire de façade ou une zone hachurée pour un îlot ou un hameau. L'échelle des patrimoines à protéger peut nécessiter la mise en place d'un zonage patrimonial spécifique, une zone UP ou une zone NP par exemple, généralement appuyée par des articles au règlement littéral. Cette variété de repérage rend complexe l'analyse patrimoniale de chaque PLU, car il ne s'agit pas d'une comptabilité objective. On ne peut pas se fier qu'aux chiffres. Le nombre d'éléments patrimoniaux ne fait pas tout. C'est la qualité de la règle qui va aussi et surtout assurer leur protection.
On a mis en place sur Bayonne un PLU patrimonial sur un quartier. L'article 11, il doit faire 25 pages, quoi. Et alors ? Je veux dire, où est le problème ? Si on explique bien aux gens que dans ce quartier, il y a du médiéval, il y a du 16e, du 17e, du 18e, que c'est pas la même chose, qu'on répond pas la même chose, que la nature de l'enduit pas le même, que ceci, que cela. Ça me semble nécessaire, quoi.
On repère dans les PLU toute une gamme d'expressions allant de la recommandation très évasive à la prescription forte. Ces subtilités réglementaires apparaissent tantôt dans les extraits de règlement, tantôt dans les fiches de repérage. Ces fiches d'identification des patrimoines peuvent être très détaillées ou se contenter parfois d'une typologie architecturale et d'une localisation. Lorsqu'elles entrent dans le détail de l'intérêt patrimonial de l'objet repéré, certaines vont jusqu'à élaborer des prescriptions spécifiques à un monument, un ensemble continu ou une typologie d'objets dispersés. Mais là encore, tout dépend de la façon dont sont rédigées ces fiches. Il arrive que certaines rubriques intitulées « prescriptions » ne contiennent en réalité que des recommandations. Le choix des mots, des verbes, de l'indicatif ou du conditionnel a un sens. Il durcit ou assouplit la règle. Nous avons par exemple pu observer ponctuellement un mélange des genres entre des règlements trop laxistes ou, à contrario, des cahiers de recommandations qui cherchent à réglementer. L'emplacement retenu pour l'annexe patrimoine du PLU, qui rassemble généralement l'ensemble des fiches d'identification, se révèle également stratégique. Placée aux côtés du règlement, l'annexe acquiert pour les prescriptions qu'elle contient une valeur réglementaire, dont elle est privée si elle figure dans les pièces annexes du PLU. Dans cette même logique de mobiliser une palette d'outils allant du droit dur au droit souple, la collectivité peut recourir aux orientations d'aménagement et de programmation, les OAP. Le Code de l'urbanisme autorise des OAP thématiques dédiées au patrimoine, sur l'ensemble de la commune ou sur une portion de territoire à fort enjeu patrimonial. Mais la collectivité peut également injecter des enjeux patrimoniaux dans ses OAP de secteur ordinaire. Là encore, il s'agit d'un droit assez souple, puisque les OAP ne s'imposent aux autorisations d'urbanisme, en particulier au permis d'aménager, que dans un rapport de compatibilité.
Le PLU peut, dans certains secteurs, avec des orientations d'aménagement et de programmation, avoir des vraies intentions programmatiques et des vraies intentions d'aménagement sur des tissus déjà habités pour les remettre en état de fonctionnement dans un ensemble urbain. Mais le PLU tout seul va être obligé de s'adosser à d'autres outils.
De manière plus globale, un PLU est de toute façon un PLU limité dans ce qu'il peut réglementer. Il peut davantage interdire qu'il ne peut imposer.
On nous fait faire des écarts dont les adducteurs lâchent en permanence, quoi, en disant « vous pouvez protéger, mais je n'ai pas le droit de prescrire ». D'accord, vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire là ? Je peux, mais je ne peux pas. Alors, on ne peut pas dire « vous devrez utiliser la pierre d'Angoulême ». Mais vous pouvez dire, comme les édifices sont construits avec une pierre d'Angoulême, on peut utiliser une pierre équivalente. Ça s'appelle de l'hypocrisie totale, quoi.
Cela pose la question de la valeur ajoutée ou retranchée du PLU par rapport à d'autres outils juridiques dédiés au patrimoine. Certaines collectivités s'intéressant au PLU patrimonial ont déjà des outils de protection sur leur territoire, notamment au travers des 44 000 monuments historiques et de leur périmètre de protection. D'autres collectivités n'en ont pas du tout, et dans ce cas, elles peuvent prendre en compte le patrimoine dans leur projet urbain, au travers du PLU ou d'une gouvernance partagée qui ne se fonde pas sur un outil juridique. Par exemple, certaines collectivités associent volontairement l'architecte des bâtiments de France et des associations à leur politique urbaine.
En tout cas, le PLU, il est là aussi pour s'intéresser à du patrimoine qui n'est pas forcément considéré comme exceptionnel, mais qui, à l'échelle de la commune ou à l'échelle d'un quartier, prend une force. Donc en effet, il y a un jeu d'échelle qui fait que le PLU, qui aujourd'hui a une dimension locale, en tout cas communale, mais même dans sa dimension intercommunale, vient là compléter finalement d'autres protections.
En revanche, les collectivités étudiées dans notre programme de recherche, s'étant engagées dans un PLU patrimonial, possèdent déjà sur leur territoire un ou plusieurs outils de protection. L'évolution de leur planification urbaine doit se faire en cohérence avec ces outils. Plusieurs cas de figure sont récurrents. Premier cas classique, la collectivité souhaite ceinturer un espace protégé par une forme de zone tampon sur des patrimoines de second rang. Cette hiérarchie territoriale des patrimoines provoque une hiérarchie des réglementations, du plan de sauvegarde et de mise en valeur au plan de valorisation de l'architecture et de patrimoine dans un site patrimonial remarquable, au PLU patrimonial à l'extérieur. Notons à cet égard que le règlement d'un site patrimonial remarquable est plus puissant qu'un règlement de PLU. Deuxième cas, il peut arriver parfois qu'un règlement de PLU à vocation patrimoniale préfigure à terme la mise en place d'un site patrimonial remarquable. Troisième cas, la collectivité souhaite donner une lisibilité réglementaire à un espace protégé par l'État, sans document patrimonial local. Il s'agit des périmètres monuments historiques et de la plupart des sites classés. Afin d'accompagner les habitants dans leurs demandes de travaux dans ces espaces protégés, le PLU patrimonial peut être un support juridique de médiation sans pour autant effacer la procédure d'accord de l'architecte des bâtiments de France. Le choix de l'outil PLU patrimonial est aussi le fruit d'une réflexion entre le partage des compétences entre État et collectivité en matière d'identification et de gestion des patrimoines. Cette réflexion est renforcée par l'accélération de la décentralisation et l'ouverture de la notion même de patrimoine à une diversité d'objets longtemps ignorés par l'État.
Mais je pense que lorsque les élus auront compris l'intérêt de cette démarche, je ne doute pas que la plupart d'entre eux puissent s'appuyer sur ce plus patrimonial. Quid de celui qui a besoin de valoriser. Et alors, l'intérêt, c'est parce que ça peut se faire au cas par cas, quasiment. Ce qui se passe dans mon département n'est pas ce qui se passe dans le département voisin. Donc on peut, au moment du plus, se poser pour repérer ce qu'il y a autour de soi et faire en sorte que eh bien, les points les plus forts et les plus intéressants soient pris en compte.
Au nom de cette libre administration de la collectivité locale, chaque territoire élaborera ou non sa propre politique patrimoniale en devant la conjuguer avec des impératifs de pression foncière, de mobilité, de gestion des risques naturels, etc. À ce titre, un plan de prévention du risque inondation peut par exemple indirectement suffire à protéger le patrimoine d'une zone inondable. Il n'est donc pas forcément nécessaire que le PLU s'en charge. La démarche de PLU peut en revanche aider à développer la connaissance sur le territoire, comme d'autres outils patrimoniaux peuvent le faire. Une collectivité ayant beaucoup de patrimoine peut en injecter très peu dans son PLU, mais en maintenir la qualité par d'autres régulations, comme l'intervention de l'architecte des bâtiments de France, ou une politique de médiation sur le patrimoine. Elle peut aussi durcir le PLU sans parler de patrimoine, préférant mettre en avant l'idée du cadre de vie, par exemple. Il y a donc des PLU patrimoniaux qui s'ignorent, tout comme il y a des PLU patrimoniaux qui, à l'instar de greenwashing, font une sorte d'heritage washing, en proclamant leur richesse patrimoniale sans la protéger réellement. Cette vigilance vis-à-vis de la réalité patrimoniale d'un PLU est importante, car il est un outil par principe évolutif et partiellement modifiable. Ce qui a été intégré à un PLU peut potentiellement en être sorti à chaque révision, ce qui représente une vraie faiblesse de cet outil.
Le choc, c'est ce qu'ont ressenti les élus de l'agglomération angevine à l'annonce de l'annulation du plan local d'urbanisme hier. Cette décision du tribunal administratif de Nantes fait suite à une plainte déposée par plusieurs associations angevines.
Le patrimoine bâti, il y a des richesses patrimoniales un peu partout. Il n'y a pratiquement rien de mis, alors qu'il y avait, à partir de l'agenda 21 et d'un inventaire qui avait été fait, énormément de documents qui permettaient de protéger certains quartiers.
Pour autant, cette faiblesse peut être contrôlable par un mécanisme d'effet cliqué, à l'image du principe de non-régression inscrit dans le Code de l'environnement. Il est notamment induit par la vigilance des associations locales ou nationales. En définitive, une fois la lumière faite sur la boîte noire du PLU patrimonial, il peut apparaître comme un véritable outil d'identification et de protection des patrimoines locaux, sans pour autant que l'on puisse étiqueter scientifiquement un PLU comme étant patrimonial. Entre un PLU A patrimonial et un PLU dit patrimonial, il y a toute une gamme de PLU pour lesquels il est impossible de dire s'ils sont ou non patrimoniaux. La typologie n'est pas binaire, mais révèle des intensités variables de patrimonialité des PLU. Ces différences témoignent avant tout d'un stade d'avancement dans la réflexion patrimoniale à l'échelle locale. Il n'y a donc pas une définition du PLU patrimonial, mais il y a un certain nombre d'indicateurs, de repères méthodologiques et une typologie de contextes territoriaux. Cela ne permet pas d'établir un portrait robot, mais plutôt une photo de classe du PLU patrimonial. Il est probable que cette photo de classe soit fortement renouvelée à moyen terme par le renforcement de l'intercommunalité. Au travers des nouveaux PLUI, on observe déjà des transformations méthodologiques dans la désignation de ce qui fait patrimoine. Le PLUI implique d'appréhender les patrimoines à l'échelle de toute l'intercommunalité, pour des raisons de cohérence du document. Ce qui faisait patrimoine à l'échelle d'une commune peut ne plus l'être à une échelle plus large, sans compter le besoin de renforcer l'ingénierie territoriale. Le développement de l'urbanisme de projet et la mise en place du nouveau règlement de PLU, avec notamment des règles sur objectifs, peut également à terme faire évoluer le régime juridique de protection du patrimoine au sein du PLU.
Plutôt que d'avoir un PLU qui soit avec un règlement qui soit écrit, qui soit relativement lourd, eh bien on va mettre quelques attentes sur une feuille de papier, c'est-à-dire à la fois la situation du territoire, à la fois les attentes et peut-être la stratégie développée par l'équipe municipale, le regard de l'expert, c'est-à-dire ça peut être le CAE, ça peut être l'architecte qui aura été missionné pour cela, et puis écouter le pétitionnaire, celui qui porte un projet, pour savoir quel est réellement son projet.
Même si notre programme de recherche a bien rencontré le PLU patrimonial, il sera donc certainement nécessaire de repartir à la recherche du PLUI patrimonial.